Eh bien, chers amis, il m'est doux ce matin de pouvoir vous saluer au nom du Seigneur Jésus, et je voudrais croire que si le Seigneur vous a accordé un peu de sommeil, vous avez pu vous endormir dans l'espérance merveilleuse de son retour. Hier soir, c'est lui-même qui nous a accueillis en nous faisant à nouveau cette promesse. Je reviendrai. Et c'est tout le thème de cette retraite, la venue du Seigneur. Nous allons nous plonger dans l'Écriture sainte pour nous laisser imprégner de ces paroles qui sont esprit et vie, qui sont toujours actuelles, car si le ciel et la terre passent, si les circonstances changent, la parole de Dieu demeure éternellement. Et quand nous la connaissons, nous nous trouvons au sein même de toutes les tempêtes sur le roc. Et alors cette nuit, j'ai demandé au Seigneur quel est le mot d'ordre pour cette journée qui reste toujours dans le grand thème de la venue du Seigneur. Le thème, vous l'avez vu, peut-on attendre dans l'aujourd'hui de notre vie, c'est-à-dire dans notre existence actuelle, la venue du Seigneur pour les siens. Vous avez bien compris que la venue du Seigneur, ce n'est pas la mort, hein, comme beaucoup l'ont pensé. Quand on meurt, eh bien c'est Jésus qui est venu nous chercher. Non! Quand on meurt, c'est nous qui allons vers lui. Ce n'est pas le retour du Seigneur, la mort. Et la mort en elle-même n'a jamais été présentée comme une espérance. La mort n'est pas une espérance. La mort, c'est le salaire du péché. Mais si nous sommes délivrés de nos péchés, si nous avons accepté Jésus comme notre grand sauveur, alors nous ne craignons pas la mort. Et à la mort du croyant, eh bien, il s'endort dans la certitude de la résurrection. À la venue du Seigneur, les morts en Christ, c'est ce que nous allons voir, seront ressuscités les premiers. Donc ils ne manqueront rien. Mais ce n'est pas la mort que nous attendons, ni les humiliations du sépulcre. Nous attendons Jésus. Et un jour il sera venu. Et alors, cette nuit donc, en demandant au Seigneur quel est le mot d'ordre pour aujourd'hui, eh bien, si nous attendons dans l'aujourd'hui de notre vie la venue du Seigneur, et si lui-même nous dit que votre cœur ne soit pas troublé par les événements que nous traversons, quelle que soit votre situation, la parole de Dieu vous déclare que votre cœur ne doit pas se troubler. Et qui a dit cette parole? Jésus. Si vous êtes ici, nous croyons que vous êtes intéressé par Jésus. Eh bien, il vous dit, je reviendrai. Il l'a dit. Mais il a ajouté, vous croyez en Dieu. Et je pense que tous ici, vous croyez en Dieu. En ce Dieu qui a fait tant de promesses dans l'Ancien Testament. Hier soir, quelqu'un me disait, vous savez, moi j'ai été élevé dans la foi chrétienne, bien sûr, mais je ne connais pas la Bible comme vous la connaissez. J'ai la connaissance de l'histoire sainte. Et c'est vrai. Et je comprends très bien que certains parmi vous, peut-être, ont été étonnés de ce qu'on peut appeler ma longue lecture. Non, c'était une lettre. Et une lettre, si on est sérieux, on la lit depuis le commencement jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Et puis on reprendra après. mais j'ai voulu être fidèle, même si ça ne plaisait pas à tous, de vous faire cette lecture, même si vous n'y étiez pas habitué. Bien voyez-vous, il faut s'y habituer. Vous êtes peut-être habitué maintenant à comprendre que si vraiment on veut saisir un message, il faut lire ce qui est écrit depuis les premiers mots jusqu'au dernier. Puis après, on reprend. Alors, il n'est pas question seulement d'avoir le souvenir de l'histoire sainte, et j'en suis heureux que vous ayez ce souvenir de l'histoire sainte, et gardez-le dans vos cœurs. Et alors, quand le Saint-Esprit animera toutes ces paroles que vous avez apprises avec raison, que l'on vous a apprises, gardez cela, mais lisez maintenant le Nouveau Testament, qui est l'explication de toute cette histoire sainte de l'Ancien Testament. Alors vous trouverez une richesse merveilleuse et vous remarquerez que Dieu a fait des promesses qu'il a tenues. Alors, quand Jésus est venu, celui que Dieu avait promis des millénaires à l'avance au moment de la chute, il a promis qu'un libérateur serait donné à ce premier couple déchu, et c'est ainsi qu'est née l'espérance. Au jour où le Dieu trois fois saint devait juger l'homme pécheur qui avait désobéi, eh bien, il a mis dans son cœur une promesse d'espérance. Et l'espérance est née en quelque sorte à la chute. Il n'en sera pas toujours ainsi, la mort ne règnera pas toujours. Le salaire du péché, c'est la mort, mais quelqu'un viendra pour ôter le péché du monde et pour nous libérer des conséquences de la mort. Voilà ce qui est promis déjà dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus est venu, Fils unique et éternel de Dieu, eh bien, il accomplissait la promesse du Père, et puis il a confirmé toutes les promesses qui avaient été faites dans l'Ancien Testament. Mais il en a ajouté d'autres. Et c'est là qu'il disait, vous croyez en Dieu, mais croyez de la même manière en moi. Car qui était-il ? Il était Dieu lui-même manifesté dans un corps de chair. Et il est venu vivre ici-bas pour que nous n'ayons pas simplement des tables de loi pour connaître la volonté de Dieu, mais que nous voyons ce que c'est que la volonté de Dieu dans la vie d'un homme. Et toute la volonté de Dieu a été manifestée dans la vie de Jésus-Christ. Et ici, nous avons été donc accueillis hier soir par Jésus-Christ lui-même, car nous croyons qu'après sa mort, il est ressuscité, qu'il est monté à la droite de Dieu et qu'il est aux cieux. Et s'il nous dit « je reviendrai », nous savons d'où il reviendra. Il reviendra du ciel. C'est pour soi, si on vous dit « il est à Toronto » ou « il est ici » ou « il est là », vous n'avez pas besoin d'y courir. L'Écriture le dit bien, n'est-ce pas? Si on dit « il est ici, il est là » ou « il est plus ici que là », non. Le Seigneur a fait la promesse qu'il reviendrait et qu'il reviendrait du ciel. Nous l'attendons du ciel. Il reviendra. Mais alors, en attendant, eh bien, le mot d'ordre d'aujourd'hui, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Quand nous lisons l'Écriture, ses vérités, il y a des choses qui sont encore pour nous obscures. Et autrefois, les miroirs étaient faits avec des tôles de fer. Ce n'était pas très clair, tandis que maintenant nous avons des miroirs bien meilleurs. Mais ça montre bien que dans un miroir, on voit que par reflet. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, tout n'est pas encore net. Mais alors, donc quand il reviendra, qu'est-ce qui se passera? À ce moment-là, quand il reviendra, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, Et vous allez en faire l'expérience que vraiment nos connaissances sont partielles. Nous ne connaissons qu'en partie. Il y a des choses sur lesquelles nous n'allons pas nous prononcer. Mais alors, donc quand il reviendra, je connaîtrai comme j'ai été connu. Et vous savez, à ce moment-là, quand on connaîtra comme il nous a connus, on dira quelle patience il a eu avec nous. Que c'est merveilleux qu'il nous ait tellement aimés et qu'il ait voulu nous sauver. Et je veux croire que chacun de vous aujourd'hui fera un grand pas dans cette connaissance du Seigneur et se mettra à se réjouir en se disant, mais d'un instant à l'autre, je pourrai le voir. Et tout à coup, en le voyant face à face, eh bien, je me prosternerai, je ne tomberai pas en arrière, en risquant de me casser les os. Mais quand nous le verrons, nous nous prosternerons. Pas parce qu'on aura entendu quelque chose d'émouvant, puis qu'on aura vu des bons hommes et des bonnes femmes tomber par terre et y rester pour se reposer, mais quand nous le verrons, nous nous prosternerons devant lui dans une adoration parfaite. Nous connaissons comme il nous a connus, et ce sera l'union totale. Eh bien, que vraiment vous puissiez vous réjouir des heures qui vont suivre. Dieu notre Père, du fond de nos cœurs, nous voulons nous réjouir de ce que tu as dit, je reviendrai. Et alors, dans notre cœur, nous te disons, oui, viens, Seigneur Jésus. Nous voudrions vraiment te connaître mieux que nous ne connaissons maintenant et que voyant ta face, nous soyons illuminés par toute ta grâce et que déjà maintenant, même si nous ne te voyons pas encore, nous puissions t'aimer et faire l'expérience que tu ne nous laisses pas et que tu as une réponse pour tous nos besoins. Pour la gloire du Père, au nom du Fils, et par la toute-puissance du Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Eh bien maintenant, je vous souhaite un bon repas. Je vous ai allé pour vous saluer, simplement. Est-ce que tous ont reçu jusqu'au chapitre 2e, verset 12e. Je veux croire que vous vous souvenez déjà de ce que nous avons lu, parce que nous avons lu toutes les épîtres hier soir. Je dis cela pour ceux qui n'étaient pas là. Et je recommanderais à ceux qui ne sont arrivés que ce matin de trouver un moment pour lire eux-mêmes dans un aparté cet épître du chapitre premier au dernier, parce que c'est comme cela que vous entrerez dans la connaissance de la parole et que vous serez bénis. Je sais que vous me direz, mais c'était long hier. Combien est-ce qu'on a pris pour lire cela? 20 minutes, pas même. 20 minutes. On a commencé à 25, puis c'était fini à moins le quart. Mais on avait lu l'épître. Vous ne vous souvenez pas de tout. Mais maintenant, on va la reprendre. Mais vous avez déjà une idée, vous avez vu. À une certaine altitude, vous avez vu, au fond, les points principaux. Et nous allons maintenant simplement alors, hier soir, dans un mot de bienvenue, puisque tous n'étaient pas là, c'était vraiment la bienvenue du Seigneur lui-même que nous avons entendu, et je le rappelle, que nous a-t-il dit, ce mot extraordinaire, qui devrait faire brûler nos cœurs d'espérance, je reviendrai. Et non seulement il reviendra, mais il nous a dit qu'il nous prendrait auprès de lui. Et je veux croire que certains cœurs ont été touchés hier soir en entendant le Seigneur dire « Je reviendrai ». Parce que la promesse du retour du Seigneur, dans l'Écriture, elle est appelée une bienheureuse espérance. Et je vous pose affectueusement la question, quand on vous parle du retour du Seigneur, et que ça serait possible qu'il revienne pendant votre vie, est-ce que cela vous donne de la joie? Est-ce que c'est pour vous une bienheureuse espérance? Je vous cite le verset, c'est dans l'Épître à Tite, au chapitre 2e, il est dit au verset 12e, au 11e, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, du côté de Dieu il n'y a pas d'obstacle, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, c'est donc dans notre monde, selon la sagesse, quant à nous-mêmes, parce que vous ne vivez pas selon la sagesse, vous vous détruisez. Selon la justice, c'est vis-à-vis des autres, et puis selon la piété, c'est vis-à-vis de Dieu. » Il y a trois choses, hein. La grâce de Dieu nous enseigne comment nous devons vivre. Sagement, si vous exagérez sur un point ou sur un autre, vous allez le payer. Justement, vis-à-vis des autres, vivre dans la justice, ne pas commettre d'injustice, et puis, dans votre relation avec Dieu, aimer Dieu. La piété, c'est être en relation avec Dieu, que Dieu soit avec nous à tout instant, tous les jours. Ce n'est pas un compagnon gênant, c'est le grand libérateur, c'est celui qui nous délivre et nous devrions connaître tout ce qu'est la puissance de Dieu. Si Dieu est avec vous, vous ne serez jamais abandonné. Certes, vous aurez des épreuves, mais quand l'épreuve vient, immédiatement, vous pensez à qui? À Dieu. Il est là. Et il ne va pas me laisser. Il ne va pas m'abandonner. Du reste, la preuve que vous n'avez pas été abandonné, c'est que vous soyez là, aujourd'hui. Hein. Parce que si vous aviez été éprouvé d'une façon surhumaine, vous ne seriez plus là. Donc, tout a été mesuré. Et vous n'avez pas été abandonné. Vous avez donc déjà une expérience que, au sein de vos épreuves, Dieu a manifesté sa puissance. Mais, on lit plus loin, vivre dans la sagesse, la justice et la piété, verset 13, en attendant quoi? La mort. C'est ça? Non. En attendant la bienheureuse espérance. Vous voyez que c'est une bienheureuse espérance. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il y a donc cette bienheureuse espérance qui est devant nous et qui nous habite, et quand elle sera réalisée, alors il y aura la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, mais qui veut se manifester au monde incrédule en nous ayant avec lui. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'il vient d'abord pour les siens, pour revenir avec les siens, pour être manifesté au monde. Quand lui sera manifesté, nous serons manifestés avec lui. Et pour que vous ayez bien la certitude que je n'invente rien, au sujet de cette manifestation, eh bien, vous l'avez dans Colossiens, au chapitre 3, il est dit au verset 1er, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Vous savez qu'il est là-haut, hein? Assis à la droite de Dieu, et que c'est de là qu'il reviendra. Il n'y a pas besoin de courir dans une ville ou dans une autre du Canada pour le trouver. Hein? « Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. » Quant à toutes ces choses qui sont sur la terre, ben vous êtes morts. « Et votre vie est cachée dans le Christ en Dieu. » Votre vraie vie, votre vie véritable, elle est cachée en Dieu. « Quand Christ, votre vie, paraîtra, qu'est-ce qu'il y aura? alors, vous voyez, il y a un alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le moment où vous devrez être glorifié, c'est le moment où le Christ sera glorifié dans le monde. Aujourd'hui, dans le monde, il est méprisé. Et vous, vous voudriez vous glorifier ? Là où Christ a été crucifié, là où Christ a été méprisé, là où Christ a été rejeté, c'est tout à fait normal qu'on soit, nous aussi, rejetés, n'est-ce pas ? Si on est vraiment disciple du Maître, c'est dans le programme, alors on le sait, et on ne met pas en doute la puissance et la bonté de Dieu, parce que nous avons des difficultés, parce que nous sommes persécutés. Mais non, mais je sais que quand le Christ sera manifesté, alors je serai manifesté avec lui en gloire. Mais ce temps-ci, ce n'est pas le temps de nous montrer. Vous voyez ce que je suis. J'ai essayé de vous dire, hein, quant à la chair, quand je regarde à ma chair, je me vois bien pire qu'au moment de ma conversion, parce qu'il y a plus de lumière dans mon cœur. Et je vois tout ce qui a pu habiter dans mon cœur. Mais à tout cela, je suis mort et j'y renonce. Je ne peux pas empêcher les pensées d'être là. Mais quand je vois ces pensées, je dis, Seigneur, comme je suis heureux d'être sauvé par toi. Et je me juge et je ne suis pas mes pensées qui ne vont pas devenir des actes. Et si même elles étaient devenues un acte, eh bien, évidemment, alors nous nous humilions devant Dieu. Et nous confessons notre péché, mais on n'y reste pas. Une fois qu'on est au Seigneur, on peut encore tomber, on peut encore avoir des chutes, parce que la chair est là, parce qu'on est dans un monde où tout est fait pour vous faire tomber. Mais à ce monde, nous devons dire non et être mort. Alors il nous faut autre chose, et il faut la communion avec les croyants et la communion avec le Seigneur. Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Hein. Si vous fréquentez des mauvaises compagnies, vous voulez soi-disant les convertir, puis c'est eux qui vous convertissent. Mais j'ai entendu un pasteur qui disait, maintenant l'heure est venue de convertir l'église au monde. Mais non, on en est. Parce que les églises se vident, là il faut amener le monde dans l'église, hein, à n'importe quel prix. Et puis alors on ne sait plus ce qu'est l'église, ce qu'est le monde, et tout ce... Et vous savez, mes amis, je vous parle sérieusement, quant à ce qui va venir dans notre pays ici, ça sera ou une bénédiction ou un jugement de Dieu. Alors faites attention. Si ça va mal, ça sera un jugement de Dieu. Sur le Québec et sur le Canada. Si ça va comme Dieu le voudra, c'est qu'il aura encore usé de grâce et de patience. Mais vous aurez ce que vous méritez. Nous aurons ce que nous méritons et ce que nous aurons peut-être choisi si nous ne dépendons pas de Dieu. Alors, oh, je supplie le Seigneur que dans ce monde, ce ne soit pas un jugement, mais que ce soit encore un temps de grâce, parce qu'on ne sait pas où nous allons. Regardez un peu le monde, regardez la France. J'ai des enfants en France, j'ai beaucoup de familles là-bas. Eh bien, ils sont dans le désarroi, on ne sait plus quoi faire. Avec ces bombes qui peuvent sauter dans un métro, etc. Vous ne savez pas ce qui peut arriver aussi. Alors que Dieu nous garde et que nous ne nous laissions pas enflammer par les uns ou par les autres, parce que ce sont tous des hommes, ils font des promesses magnifiques, et ce sont des hommes, et qu'est-ce qu'il est dit ? Que Dieu soit vrai, et tout homme menteur. Alors, que la parole de Dieu vous inspire et vous garde. Donc le retour de Christ, nous y revenons, est une bienheureuse espérance. Et alors, sa manifestation sera aussi notre manifestation. Mais quand nous voulons nous manifester nous-mêmes, ben vous savez, c'est pas très glorieux. Hein, quand on parle de soi, de ce qu'on a fait, de nos œuvres, d'abord on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par là. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Alors, mes amis, la promesse du retour de Jésus a été dans tous les âges. La bienheureuse espérance dont nous avons parlé, la bienheureuse espérance de tous ceux qui croyaient en Dieu, car Dieu avait fait cette promesse. Le chrétien est donc un homme d'attente, il vit dans l'attente. Mais pas une attente anxieuse, une attente bienheureuse. Et si j'ai choisi la première épître aux Thessaloniciens comme toile de fond de nos études, c'est parce que le sujet essentiel dont elle parle, cette épître, c'est la venue du Seigneur. Et c'est quand même formidable que l'apôtre Paul n'ait pas pu rester plus de 3 sabbats pour enseigner dans la synagogue, afin que nous ayons la lettre qu'il leur a écrite, parce que s'il avait pu tout leur dire, on n'aurait pas cette lettre. Et même Jésus l'a dit, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de les supporter. Mais quand le Saint-Esprit viendra, eh bien, il vous rappellera non seulement les choses que je vous ai dites, mais il vous enseignera les choses qui doivent arriver. Et c'est pourquoi on a le Nouveau Testament, on a les apôtres et les prophètes qui nous ont donné l'enseignement que Jésus n'a pas pu donner complètement. Mais l'enseignement de Paul ne dit plus, oh c'est Saint Paul, c'est pas Jésus qui a dit ça. Paul nous dit que ce qu'il a enseigné, il l'a reçu du Seigneur. Il l'a pas reçu de Pierre, de Jacques ou de Jean. Il l'a reçu lui-même du Seigneur. Le Seigneur glorifié, c'est plus à révéler ses pensées à un homme qui en était tout à fait indigne, car qui était Paul, avant sa conversion, Saul de Tarse, lui-même un persécuteur des chrétiens, des croyants. Et voilà que Dieu choisit cet homme pour en faire son témoin. Et il lui montre à l'avance combien il aurait à souffrir pour le nom du Seigneur. Alors, grâce à ces persécutions, nous avons le bénéfice d'avoir la première épître aux Thessaloniciens. Et quand vous lisez cette épître, il faut y chercher la vérité essentielle. De quoi est-il vraiment question? Quelle est la vérité essentielle de cette épître? Si je vous demande quelle est la vérité essentielle de l'épître aux Romains, je pense que vous le savez, hein. C'est quoi? La justification par la foi. Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres ou par la foi? Eh bien, l'épître aux Romains a la réponse claire à cette question de Job, mais comment un homme peut-il être pur devant Dieu? C'est par la foi. Voilà ce qu'on appelle la vérité essentielle de l'épître aux Romains. Et c'est cela qui a provoqué la réforme. Quand Luther, qui était un prêtre, un catholique, un prêtre, et qui aimait le Seigneur, mais qui n'arrivait pas à avoir la paix, quand il a découvert l'épître aux Romains, ben c'était un trait de lumière justifié, non pas par mes œuvres en se regardant soi, hein, mais par la foi. Une foi qui n'allait pas être morte, mais qui allait produire des œuvres. Mais automatiquement, il était persécuté. On entend dire quelquefois que même l'Église romaine veut canoniser Luther. Pour arriver, ben. On n'attend pas ça. Mais on est heureux que Luther ait apporté cette grande vérité qu'il n'a pas inventée. Elle était là dans la Bible. Mais on avait recouvert tout cela de sable. Pourquoi? Parce que on avait surtout besoin d'argent pour construire des grandes églises. Et alors il fallait promettre si on payait. Il y a eu toute l'histoire des indulgences. Vous comprenez? Mais nous n'allons pas entrer dans tout cela. Mais c'est pour vous dire. On cherche, quand on lit une épître, la vérité essentielle. Alors, la vérité essentielle de l'épître aux Thessaloniciens, c'est quoi? La venue du Seigneur. On va apprendre quelque chose sur la venue du Seigneur. Parce que chaque chapitre en parle. Chapitre 1, verset 10. Chapitre 1, verset 10. Attendant la bienheureuse... pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc voilà, le premier chapitre nous parle que quand Jésus viendra, il va nous ravir avant la colère. La colère vient sur le monde. Même les incrédules le disent, ils nous disent nous allons devant une catastrophe, mais ils ne veulent pas changer. Hein. Mais ils savent bien qu'on va devant une catastrophe, de toute manière. Einstein l'avait prédit, il n'était pas un incrédule. Chapitre 2, verset 19. Vous voyez que tous les chapitres en parlent. Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? Est-ce que c'est une couronne de gloire? Pensez que le Seigneur revient? Parce qu'alors vous serez manifestés. si vous avez été fidèles dans l'épreuve. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Donc c'est quand il viendra que nous serons manifestés au monde et que le monde reconnaîtra. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Prenez le chapitre 3, verset 13, qu'il affermisse vos cœurs pour que vous soyez, à ce moment-là, irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Donc, quand il reviendra, il aura avec lui tous ses saints. Et il les manifestera et le monde reconnaîtra que ils sont heureux ceux qui ont cru. Alors, chapitre 4, vous avez du verset 13 à 18 un enseignement très précis concernant ce qui se passera à la venue du Seigneur. Il ressuscitera les morts en Christ en premier lieu, puis les vivants. Ceux qui seront vivants, parce qu'il y a une génération qui sera vivante à son retour, ils seront en un instant transmués. Vous rendez-vous compte comment on pourrait se réjouir? Chacun, plus ou moins, on a son cancer. Hein? On a des misères, puis tout d'un coup, plus de misères. Des corps qui, en un instant, et sans douleur, sans narcose, sont changés. Mais est-ce que vous y croyez? Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Mais vous dites, mais c'est Paul qui a dit ça. Mais Paul dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. De sorte que l'autorité de Paul, c'est l'autorité du Christ. Et l'autorité du Christ, c'est l'autorité de Dieu. Je ne parle pas de moi-même, ce que je dis, ce sont les choses que j'ai entendues dire par mon Père. Voilà ce que vous lisez dans l'Évangile. Chapitre 5, verset 3. Eh bien, vous avez aussi cette vérité essentielle. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte, ils n'échapperont point. Oui, et puis c'est la venue du Seigneur. Bon. Alors, je vous rappelle maintenant brièvement les quelques règles que nous devons observer si nous voulons bien comprendre une épître. Donc, savoir qui a écrit la lettre. Qu'est-ce qui a écrit la lettre? Paul. Pour qui a-t-elle été écrite? Un deuxième point. Pour les Thessaloniciens, d'abord, hein, et puis tous ceux qui croient. Et où voyons-nous qu'elle est écrite pour les Thessaloniciens? Dans le premier verset. Hein. Elle est adressée à l'église des Thessaloniciens. Et quel est son objet direct, ce but évident dont j'ai parlé, c'est la venue du Seigneur. Alors vous voyez qu'il était bien nécessaire de lire toute l'épître sans nous arrêter en cherchant d'abord le but évident. Puis nous avons lu hier au chapitre 17e, et je le dis pour ceux qui n'y étaient pas, des actes où nous savons comment la ville de Thessalonique a reçu l'évangile. Vous pouvez reprendre aussi les notes que je vous ai données ici, dans la page 2, comment les Thessaloniciens ont reçu l'évangile en l'année 50 et 51. En 51, c'est le moment où il a écrit la lettre, hein, mais c'était donc un peu avant. Mais il y a été très peu de temps. Je ne dis pas qu'il est resté simplement 3 semaines, mais il a prêché 3 sabbats. Mais il a peut-être été un peu plus longtemps quand même, parce que si vous lisez les Philippiens, et c'est toujours la lecture complète de l'Écriture qui nous enseigne, les Philippiens, quand il leur écrit, il les remercie. Au sujet de quoi? Il leur dit, au verset 10 du chapitre 4, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. Philippiens 4, hein. De ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi, vous y pensiez déjà, donc les Philippiens avaient envoyé un don matériel. Mais l'occasion vous manquait. ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris, et nous, est-ce que nous avons appris, à être content dans la situation où je me trouve. L'histoire que je vous ai racontée hier, hein, de cet homme qui dit, moi j'étais mécontent de tout, mais maintenant ça a changé. Puis la femme qui me parlait lui dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelqu'un est entré dans ma vie. Et la femme qui me racontait ça pensait que c'était une femme. Quelqu'un est entré dans ma vie, alors tout a changé, j'ai une femme dans ma vie, non. Alors elle lui dit, mais alors qu'est-ce que c'est qui est entré dans votre vie? Une personne, Jésus. C'est beau ça, hein? Quelqu'un est entré dans ma vie, Jésus. Elle est partie, cette personne est partie, ce jeune homme est parti. Quand quelqu'un entre dans notre vie, ça change. Alors vous voyez, j'ai appris à être content dans la situation où je me trouve, verset 11. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la détresse. Et puis, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est beau, hein? Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je suis parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Donc vous voyez, cette église de Philippe qui n'avait pas même une synagogue, hein, ils se réunissaient sans avoir une salle d'abord, où Paul avait prêché, eh bien, les croyants de Philippe avaient ressenti qu'ils avaient une charge vis-à-vis de l'apôtre qui leur avait apporté l'évangile. Et quand il est parti dans la deuxième ville évangélisée en Europe, qui était Thessalonique, ils ont envoyé à deux reprises. Or, s'il est resté trois semaines, hein, ça devait être presque chaque semaine, alors. Mais enfin, on pense qu'il a pu rester un peu plus que trois semaines. Mais disons, ça n'a pas tellement dépassé un ou deux mois. Mais il n'a pas pu tout leur dire, et puis il y a eu tout de suite les persécutions, et ils ont dû partir. Alors, nous revenons à notre épître. Donc, si vous voulez savoir comment ils ont annoncé l'Évangile, en partant de Philippe, c'est en lisant le chapitre 17 des Actes. Vous voyez, Paul et Silas, vous savez qui est Paul? Je n'insiste pas. Vous savez qui est Silas? C'était un Hébreu qui habitait à Jérusalem, et quand il y a eu le premier concile de Jérusalem, et qu'ils ont décidé de ne pas obliger les païens d'être circoncis, on a écrit une lettre pour l'église qui se réunissait à Antioche, et on a envoyé deux personnes avec Paul et Barnabas, et c'était ce Silas. Silas était un croyant de Jérusalem, donc parmi les Juifs, et il est devenu le compagnon de Paul, et c'est lui qui a souffert avec Paul à Philippe, qui a été emprisonné après avoir été battu. Ils ont subi un tremblement de terre, mais qui les a délivrés. Vous voyez qu'un tremblement de terre peut être aussi une délivrance. Ça a délivré l'apôtre Paul et Silas. Les portes se sont ouvertes. Rien n'est contre vous, mes amis. Vous avez peur du tremblement de terre? Mais ça a été une délivrance, ça peut être une délivrance. Ça peut être un jugement, mais ça peut être aussi une délivrance. Vous devez toujours voir les deux aspects. C'est cela que vous enseigne la parole. Alors vous restez dans la paix. Vous n'êtes pas tout le temps angoissé. Vous croyez en Dieu. Vous croyez aussi en moi, que votre cœur ne se trouble pas. Alors, vous comprenez pourquoi, en écrivant sa lettre, Paul s'adjoint Sylvain. Et si vous me demandez, mais pourquoi est-ce qu'il s'est adjoint Timothée? Eh bien, si vous avez lu l'épître comme on l'a fait hier soir, vous apprenez que Paul, quand il a dû quitter Thessalonique, il avait tellement peur que les Thessaloniciens flanchent sous les persécutions, qu'il est parti lui, parce que sa vie était menacée, mais il a laissé Timothée qui est allé prendre des nouvelles, et qui lui a donné au chapitre 3 des nouvelles qui l'ont rassuré. Alors vous comprenez pourquoi Timothée est nommé dans ce premier verset. Ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas? Paul, Sylvain et Timothée. Et Timothée, qui était-il? C'était un jeune homme qui avait été converti où? Dans le chapitre 14 et 16 des Actes, vous avez l'illustration de ce qu'a été Timothée, qui veut dire honneur de Dieu. C'était un jeune homme dont la mère était juive, qui avait une grand-mère, Loïs et Eunice, c'était ses parents, et le père était grec. Et puis voilà que ce Timothée s'est converti au Seigneur. Je pense bien que c'est lorsque il a vu Paul qu'on lapidait, et tout à coup Paul, qu'on croyait mort, s'est levé, il s'est donné au Seigneur. Et Paul dit, c'est mon enfant dans la foi. C'est par le moyen de Paul que Timothée a été sauvé. Et il est devenu le compagnon de Paul. Alors, il s'associe, Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens. Alors, qu'est-ce que c'était cette église? Il y avait longtemps qu'elle était fondée. Et comment s'appelait-elle? Cette église, quel titre est-ce qu'elle avait? À l'église qui est en Dieu. Est-ce que vous êtes dans une église qui est en Dieu? Mais en Dieu connu comme quoi? Comme un père. Est-ce que dans votre église, on vous enseigne cela? Et c'est cela qui doit être enseigné. L'église, elle est en Dieu, le père. Elle n'est pas dans une doctrine particulière. Elle est en Dieu, le père. Et c'est quelque chose de fantastique. Ça veut dire que les membres d'une église sont des gens nés de nouveau. C'est pas un mélange. Ce sont des gens qui sont nés de nouveau et qui peuvent appeler Dieu leur Père. Vous n'avez pas à connaître d'autres églises. Alors, ici, chers amis, quelle que soit la dénomination dans laquelle vous êtes nés ou avec qui vous vous rassemblez, nous voudrions que vous saisissiez, ça, nous ne parlons pas contre ceci ou contre cela, mais que vous êtes une église qui est en Dieu le Père. Nous sommes réunis sous le regard du Père. Nous connaissons Dieu comme un Père. Alors, si vous connaissez Dieu comme un Père et que je connaisse Dieu aussi comme un Père, qu'est-ce qu'on est les uns pour les autres? Des frères, pas des cousins. Ou des cousins éloignés. Nous sommes des frères. Et cela, eh bien, je mourrai pour ça. On peut me mettre dehors, on peut me chasser, on peut faire n'importe quoi. Ceux qui aiment le Seigneur Jésus sont mes frères. Ceux qui l'ont reçu sont mes frères. J'oublie le reste. Ils sont mes frères. Et c'est ça qui est beau. Et c'est cela qui nous permet de nous témoigner un amour véritable et ne pas changer de trottoir parce qu'on ne veut pas rencontrer celui d'une autre église. Hein? Comment est-ce que nous témoignons de l'unité? On est en Dieu le Père. Alors, ce Père, on doit le connaître. Vous croyez en Dieu le Père, qui est un Père bon, un seul et bon, c'est le Père. Il nous a été révélé par qui? Par Jésus-Christ. Alors, on est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, puisque c'est le Seigneur qui nous l'a révélé. Et alors, que la grâce et la paix vous soient données. Quand on a ces sentiments-là, vous pouvez être sûr que vous allez avoir une grâce et que vous allez rester dans la paix. Et vous voyez le verset 2, l'apôtre est plein d'actions de grâce. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Il n'était plus là, mais il pouvait prier pour eux, et il savait qu'il était exaucé. Nous rappelons sans cesse, et c'est tellement beau ce qu'il dit, l'œuvre de votre foi. Qu'est-ce qu'il avait prêché, Paul, là? La foi. Et qu'est-ce que cette foi avait produit? Une œuvre. C'est ça qui est merveilleux. Dans une église, si vous prêchez la foi, cette foi doit produire une œuvre. Et puis, le travail de votre amour, qu'est-ce qu'il leur avait prêché? L'amour. Et alors, l'amour les avait poussés à travailler. Ce n'était pas quelque chose de pénible. Il avait prêché la foi et l'amour. Et puis, il leur avait prêché quoi? L'espérance, qui n'est pas encore une réalité, mais quelle espérance? Le retour du Seigneur. Elle était tellement vraie, tellement beau, alors qu'il leur parle de la fermeté de leur espérance. Ils espèrent toujours dans le retour du Seigneur. devant Dieu notre Père. Et il leur dit, vous savez, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Est-ce que vous le savez? Quand la parole a été reçue, on sait qu'on est élu. On ne le sait pas avant, hein. Mais une fois qu'on l'a reçue, croyez et vous saurez. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage à votre esprit que vous êtes élu, que vous êtes vraiment un enfant de Dieu. Et vous ne mettez pas en doute la parole de Dieu. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, comme on l'a dit, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Vous savez, Paul venait d'être battu, il aurait pu se dire en mauvais état, qu'il n'était pas en forme, c'est pas ça qui le préoccupait. Car vous n'ignorez pas comment nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Quand il y a vraiment un exemple, il y a des imitateurs. Eh bien, que nous puissions, et que vous puissiez vous-même découvrir tout ce qu'il y a dans ce chapitre. Ils deviennent les imitateurs de Paul, ils deviennent des modèles pour les autres. Est-ce que vous cherchez un modèle dans votre église? Non, devenez un modèle pour les autres. Finissez de chercher un modèle. Devenez un modèle pour les autres. Et vous verrez comme ça va changer l'esprit de l'église, de la communauté. Vous êtes devenus des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, et non seulement, en effet, la parole a retenti chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Pas parce qu'on a fait des grandes organisations pour faire connaître la foi, mais ces vies transformées ont tellement parlé au monde que le monde en parlait. On n'avait pas besoin de faire des réunions de témoignage. On en parlait, le monde parlait. Vous savez, la vraie réunion de témoignage, c'est quand le monde dit, ben ces gens-là, ils ne sont pas comme les autres. C'est pas pour nous glorifier, hein, mais voilà, votre foi envers Dieu s'est fait connaître. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Voilà la conversion. Qu'est-ce que c'est qu'une conversion? C'est un demi-tour, hein. Ils étaient idolâtres, ils étaient païens, ou ils étaient juifs, assujettis à la loi, et puis tout à coup ils ont entendu l'évangile qui les a libérés, et la conversion c'est un demi-tour. Quand je regarde de ce côté-là, je vois une porte, hein, mais si je fais un demi-tour, je vois autre chose, hein, je vois ce tableau. On n'a plus les mêmes vues quand on est converti. Ce n'est plus le monde qui est devant nous, c'est le ciel. Et nos relations sont avec le ciel. Et alors, ils attendaient, ils étaient au service du Seigneur, et ils étaient convertis pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère. Et dans le chapitre 2, puisque je vous ai demandé de relire jusqu'au verset 12, vous verrez ce que Paul dit, comment il a été avec Silas pour prêcher l'évangile. Dieu notre Père, nous voulons maintenant te faire éperdument confiance et laisser nos bien-aimés méditer eux-mêmes ta parole en relisant ces textes. Qu'ils ne soient pas préoccupés par les questions, si elles peuvent leur servir, qu'ils s'en servent, s'ils ont autre chose et mieux, conduis-les par ton esprit. Et que nous puissions nous retrouver après dans la joie et dans la paix. Ce chapitre n'étant plus dans le livre seulement, mais dans nos cœurs. Et que le Saint-Esprit, qui est notre mémoire, nous le rappelle jour après jour, heure après heure, dans la vie quotidienne. Car si nous sommes venus ici, c'est parce que c'est dur de vivre dans le monde. Et nous devons encore y vivre, en attendant que tu viennes. Mais qu'en attendant que tu viennes, nous puissions connaître les ressources que tu nous as données pour ta seule gloire. Amen. Alors, tout le monde a son petit livret. Vous pouvez passer sans votre collation. Mais, alors, tenez le programme. Méditation personnelle. Au contraire, vous avez dû être renouvelé. Vous avez eu l'occasion aussi de faire un peu meilleure connaissance avec les uns et les autres. Parce que vous voyez, dans ce que vous avez lu, l'apôtre souligne combien il s'est mis, étant donné qu'il devait en être séparé, à prier pour ses chers Thessaloniciens. Il leur était devenu très cher. Et nous voulons espérer aussi que ces rencontres que vous avez entre vous permettront d'apprécier vos frères et vos sœurs et de les garder en mémoire dans vos cœurs et dans vos prières. Et quand ils vous écriront de bonnes nouvelles, nous espérons que ce sera pour vous un sujet de joie. Et s'ils vous disent, tu sais, tu m'as dit quelque chose ou tu as dit quelque chose dans ces papiers qui a tellement touché mon cœur et ça m'a fait du bien, et alors vous aurez donc édifié cette personne et un jour le Seigneur vous le rendra, et en pensant à son retour, eh bien cette personne sera pour vous un sujet d'allégresse. C'est quelque chose de très beau, hein? C'est ce que nous dit l'Écriture, c'est ce que nous dit le chapitre que vous avez lu et que nous continuerons à lire. Mais pour voir, pour sonder un peu aujourd'hui, ce matin, je vous demanderai comment est-ce que ça s'est passé, vos ateliers. C'était utile? Vous vous êtes ennuyé? Non. Vous avez aimé? Eh bien, on va juste faire un petit résumé de ce qui a pu être vu. Comment ça s'est passé dans l'atelier numéro 1? Bien, mes amis, nous voilà déjà arrivés dans cet après-midi du 21 octobre. Et nous allons continuer notre étude. Je voudrais simplement vous rappeler que si vous trouvez qu'il y a trop de questions, eh bien, vous n'avez pas à y répondre. Et si vous avez des questions bien meilleures qui vous préoccupent, vous les mettez dans votre page. Et puis vous nous le direz, et on essayera de vous répondre. Mais il y a souvent ici des personnes qui ont de la peine à méditer seules, parce qu'elles n'ont pas eu cette habitude. Alors on a mis ces questions-là, j'ai mis ces questions-là, pour vous aider à réfléchir, à étudier, mais toutes les réponses, vous n'avez pas à les chercher à droite et à gauche, elles sont dans le texte que vous venez de lire. Puis évidemment, il y a différentes réponses, et une réponse n'est pas nécessairement fausse, ou s'oppose à une autre. Il faut les rassembler, il faut les réunir. Mais si vous avez mieux que cela, parce que nous n'avons pas de prétention là-dessus, eh bien, faites mieux. Alors, pour cet après-midi, nous allons continuer cette étude. Évidemment, je le comprends, vous vous êtes arrêté sur les premières questions, et ce qui se trouve au fond dans le chapitre 2, jusqu'au verset 12, vous n'avez guère pu vous en occuper. Alors, même si je vous déçois, je vous relis depuis le chapitre 2, n'est-ce pas? Parce que ce que je voudrais, ce n'est pas que vous ayez l'enseignement de Racine, mais que vous ayez la parole de Dieu dans le cœur, vous y preniez goût, et que ces paroles vous éclairent, vous illuminent, et fassent autorité sur vos cœurs, non pas que vous disiez, mais moi je pense ceci, qu'est-ce que ça peut faire ce que vous pensez? C'est tout bon à la poubelle, nos propres pensées. On sait très bien ce que la chair peut penser. Mais et ce qui compte, c'est ce que Dieu pense. Et voyez-vous, la vérité, c'est la pensée de Dieu à l'égard de toutes choses. Et la pensée de Dieu, elle nous a été révélée dans l'Écriture sainte. Jésus est venu pour cela. Et quand il en a témoigné, les hommes n'ont pas voulu de son témoignage. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a crucifié. Et on a évidemment, quand ils viennent ici, qui sont scandalisés parce qu'ils encore le crucifient. Mais mes amis, est-ce qu'il y a eu un crucifix? Est-ce qu'il y a eu une croix? Ça nous rappelle la croix, mais nous n'adorons pas le crucifix. Mais nous nous souvenons que Jésus a été crucifié, oui ou non? Et nous nous souvenons que c'est pour qui qu'il a été crucifié? C'est pour nous, pour nos péchés. Mais nous n'en faisons pas un objet d'adoration. N'est-ce pas? Mais nous adorons celui qui a été crucifié, mais qui maintenant est ressuscité, qui est vivant, et on sait où il est vivant, à la droite de Dieu, et il nous a promis qu'il reviendrait. Et c'est notre grand thème, il a dit qu'il reviendrait, et nous le croyons. Et cela peut arriver au cours de notre propre existence. Vous pouvez être de ceux qui ne passeront pas par la mort. Vous direz, mais quel malheur, j'ai déjà fait mon arrangement, mon préarrangement. J'ai fait mon préarrangement, alors si je ne meurs pas, eh bien, laissez ça au pont funèbre. Voyez-vous, on se fait du souci, ne vous troublez pas. Attendez le Seigneur, c'est tellement mieux que tout ce que nous pouvons espérer ou penser, ce qui nous attend. Hein. Alors, je lis depuis la fin du chapitre 1er, hein, verset 9. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Vous savez, c'était des idolâtres, hein, il y avait des païens, comme vous l'avez vu dans le chapitre 17. Il y avait des Grecs, mais qui avaient la crainte de Dieu, qui cherchaient. Est-ce qu'il y en a qui cherchent encore ici parmi vous, qui sont en recherche? Mais il faut que cette recherche aboutisse. Elle peut aboutir aujourd'hui. Cherchez et vous trouverez. Mais cherchez pas quelque chose, cherchez quelqu'un. Vous avez tout pleinement en lui. La chose que vous recherchez, vous l'avez en lui. Alors recevez-le lui et vous verrez ce qu'il fera. Alors, ils se sont convertis, détournés de leurs idoles vers Dieu, le Dieu vivant. Avant, c'était un Dieu qu'on devait porter, une statue, tout ce que vous voulez. Mais ils ont trouvé le Dieu vivant, celui qui a des yeux qui voit. Une statue a des yeux, mais elle ne voit pas. Vous avez le psaume 115 qui vous donne une description de ce que sont les idoles. Hein. Elles ont une bouche qui ne parle pas, des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, des mains qui ne nous touchent pas. Quand on est au Seigneur, on connaît sa main. Il nous tient par la main et il ne nous lâchera pas. Et si même nous tombons, il nous relèvera. Il ne va pas nous donner le dernier coup de pique quand nous sommes par terre, hein, comme nos frères le font trop souvent. Pour nous juger, on est là, hein, mais pour nous relever, ah, ils sont loin. Eh bien, ce n'est pas l'exemple du Seigneur, mais justement l'apôtre Paul, qui savait de quoi il était sauvé, à quoi le Seigneur l'avait arraché, lui qui se réjouissait même en voyant couler le sang des martyrs, et puis il est devenu lui-même un martyr. Mais il avait dû passer par cette école de la souffrance. Mais il pouvait en parler, et on savait que ce qu'il disait était vrai. Alors, quand il a prêché, on a cru sa parole. Et ils se sont détournés des idoles pour attendre des cieux son Fils, le Fils de Dieu, qui est la révélation de Dieu, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Parce que quand vous dites que vous croyez en Dieu, ça ne me rassure pas. Il y a un tas de gens qui croient en Dieu. Mais le vrai Dieu ne peut être connu que par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, dit l'Écriture, lui nous l'a fait connaître. Il n'existe pas de connaissance réelle et personnelle de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Alors, ce que vous devez croire, c'est croire ce que Jésus-Christ a dit. Vous croyez en Dieu, c'est bien, hein? Mais si vous voulez connaître Dieu, croyez en moi. Parce que c'est en Jésus qu'on a vu ce qu'était l'amour, qu'on a vu ce qu'était la bonté,
qu'on a vu ce qu'était la miséricorde, qu'on a vu ce qu'était le pardon. Figurez-vous cette femme qui était prostituée et qui était jugée par tous. Elle a osé s'approcher dans une maison de riche, dans la maison du pharisien. Elle s'est mise aux pieds de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé en lui? Le pardon, la délivrance. Et elle est devenue cette servante du Seigneur que l'on retrouve au pied de la croix. Oh, ce que Jésus a fait, ce que Jésus fait encore aujourd'hui pour ceux qui s'approchent de lui. On se détourne des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, qui nous délivre de la colère à venir. La colère vient sur le monde. Et vous savez, mes amis, hein, cette colère, elle sera à la mesure des iniquités de la terre. Et quand on pense à toutes ces marches, mais évidemment, les chrétiens sont tellement donnés qu'ils s'exaltent parce qu'on leur parle d'une marche pour Jésus. Il y a tellement de marches qui se font pour n'importe quoi. Puis maintenant, pour que ça ait l'air quand même mieux, on fait la marche pour Jésus. Marcher pour Jésus une journée. Puis on compte combien il y a eu de marcheurs sur la terre. Mais c'est tous les jours qu'on marche pour Jésus. C'est pas une journée par année. Comprenez-vous? Mais on est complètement aveuglé. C'est pas une marche pour Jésus qui est un témoignage chrétien. Une marche d'une journée, c'est marcher tous les jours dans le détail. Alors, comprenez-le, reprenez vos sens, réveillez-vous, ayez un peu d'esprit critique quant à tout ce qu'on vous propose, soi-disant de spirituel. Ah, mais ça fait bien, on a marché pour Jésus, on a pris position pour Jésus. La vraie position pour Jésus, vous savez comment on l'a fait? C'est sur ses genoux. Quand on s'humilie et qu'on lui demande pardon pour toutes les fautes que nous commettons encore, parce que nous sommes tellement charnels, alors nous venons vers lui. Et puis nous lui disons, quel grand sauveur tu es pour moi. Alors, Paul a donc prêché, mais il a prêché avec conviction, parce que ce salut qu'il apportait aux autres, il en faisait l'expérience. C'était pas quelque chose pour lui le salut. C'était qui? C'était Jésus. Celui qu'il persécutait était devenu son maître. Vous savez vous-même, chapitre 2, et j'espère bien que si vous avez relu cela, vous avez une autre idée de Paul que celle que l'on vous a peut-être donnée. Il y en a qui n'aiment pas beaucoup Paul. Ils le trouvent dur et je ne sais trop quoi. Mais on dirait qu'ils n'ont pas lu la parole. Mais relisez la parole, ayez des convictions sur Paul. Regardez. Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Quels étaient les résultats? Des vies transformées, des gens qui cherchaient, qui allaient chez les Juifs pour trouver dans cette religion la paix, puis qui ne l'avaient pas trouvée, puis tout d'un coup, voilà ce Paul qui vient et qui leur présente Jésus. Alors quelques Juifs le suivent, parce qu'il y a eu des conversions chez les Juifs, hein. Et puis ceux qui ont le mieux écouté, c'était les païens. Et alors ils se joignent à ces Juifs qui ont suivi l'apôtre Paul. Et puis alors, ce qui est très beau, hein, il y a eu... Qui était le plus grand nombre de sauvés, là? Des femmes. Et pas n'importe quelle femme. Des femmes de qualité. C'est beau ça, hein? Des femmes de haut rang ont été touchées par le Seigneur et ont délaissé les idoles. C'est ce que nous lisons dans le chapitre 17 des Actes. Hein? Alors, vous avez vu vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, c'était la ville où ils avaient évangélisé, mais où s'était converti le geôlier, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu. Quand on est persécuté, chers amis, c'est pas dangereux. Ça nous donne de l'assurance. Nous avons pris de l'assurance en notre Dieu
pour vous annoncer l'évangile de Dieu. On ne va pas se taire parce qu'on nous a rabroués. Au milieu de bien des combats, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, vous voyez, il était conscient que Dieu lui avait confié l'évangile. Alors, il parlait au nom de Dieu. Nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais mon premier auditeur ici même, c'est qui? C'est vous? Non, c'est Dieu. Dieu est mon premier auditeur, et tout ce que je dis de son fils, il l'entend. Alors, comment est-ce que je parle de son fils? Nous ne cherchons pas à plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, il n'a pas peur de les prendre à témoin. Et j'aime beaucoup ces jamais. Il y a des choses qu'on ne devrait jamais faire. Eh bien là, vous avez deux jamais. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Pour, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Et quand on pense à tous ces gourous, à tous ces chefs de secte qui pullulent aujourd'hui, ils veulent l'argent des autres. Et la première chose qu'ils font, c'est de chercher l'argent. Eh bien, que le Seigneur nous garde de tout cela. Nous n'avons jamais eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Ils n'ont pas cherché à se glorifier, à montrer tous leurs titres, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, puisqu'ils avaient été choisis. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Et j'aime ces expressions. Paul, de même qu'une nourrice. Vous connaissez ce que fait la nourrice? Il y a beaucoup de mères ici qui ont été nourrices. Hein, prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Que c'est beau, hein? Ça ne se sépare pas. L'évangile et la vie de Paul, c'est la même chose. C'est comme la doctrine de Jésus et la vie de Jésus, c'est la même chose. Il était sa doctrine et sa doctrine était sa vie. C'est merveilleux, ça. Et c'est cela que nous devons comprendre dans ce monde. Verset 9. Vous vous rappelez, frère, notre travail et notre peine. Et ça, c'est encore quelque chose. Paul a donné un exemple. Il n'était pas à la charge des autres, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun d'eux. Alors qu'aujourd'hui, on reçoit un tas de lettres pour qu'on prenne quelqu'un en charge, matériellement. On nous envoie même des chèques postdatés et tout ce que vous voulez, tout ça pour la corbeille à papier. Parce que ce n'est pas une dépendance de Dieu. Ce n'est pas de la dépendance de Dieu. Quand on dépend du Seigneur, on entre dans sa chambre, on ferme la porte sur soi, on lui expose nos besoins, et on sait qu'on a un Père dans les cieux qui sait que nous avons besoin de ces choses, et il sait nous répondre. Oh mes amis, que nous avons besoin de revenir à la parole. Mais ce n'est pas ma parole, elle est dans votre Bible. Mais est-ce qu'elle est dans votre cœur? Est-ce qu'elle illumine votre intelligence? Elle donne de l'intelligence au compliqué, au simple. N'ayez pas peur d'être simple. Psaume 119, un merveilleux psaume. Vous me direz, il est trop long. Trop long, trop long. Alors, je reviens, verset 10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite. Ah, c'est quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on apprend souvent sur ces gourous? Au bout de peu de temps, ils prennent les femmes qui les entourent, qui doivent coucher avec eux. Puis ça se déclare, on le sait pour finir, parce qu'ils ont droit à tout, à l'âme, l'esprit, le corps, et les biens surtout. vous êtes témoin, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous n'avons pas été pour chacun de vous vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous savez pas que c'est beau? Être un père pour ses enfants. Eh bien oui, l'apôtre Paul était comme un père pour ses enfants. Il savait prendre du temps, savait les écouter. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de qui? De Dieu, puisqu'il est notre père. Qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Vous rendez-vous compte? À quoi êtes-vous appelé? À son royaume et à sa gloire. C'est fantastique. Mais est-ce que ça ne nous touche pas? Est-ce que ça ne nous pénètre pas? C'est pourquoi, alors vous commencez ici votre lecture, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Vous voyez ce que c'est que la puissance dont il parle dans le chapitre 1er. L'évangile que nous vous avons prêché, on l'a prêché dans la puissance. C'est un évangile qui était puissant, qui ne laissait pas les gens intacts, mais qui les transformait. C'était pas simplement, comme on dit aujourd'hui, la puissance, c'est de faire des guérisons, approchez-vous et vous serez guéris. Et si vous saviez tous les trucages qu'il y a dans ces réunions, c'est quelque chose d'épouvantable. Alors, si vous croyez ça, alors vous vous avancez, tout le monde est malade, tout le monde sent tout d'un coup une chaleur, on vous dit que c'est une chaleur, vous avez, et puis voilà, vous êtes guéri, puis vous allez quand même au cimetière, avec toutes vos guérisons, multipliées, oh, que nous puissions revenir à la simplicité de la parole, et croire que cette parole nous tient debout, parce que c'est la parole qui nous tient debout, et j'en expérimente la force. La parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu. Vous voyez, c'est pas des églises d'une telle sorte, c'est les églises de Dieu. On l'a déjà vu au premier chapitre. Hein, qui sont en Jésus-Christ. Les églises de Dieu sont vraiment en Jésus-Christ. Dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Oui, dans cette Europe qui commençait d'être évangélisée, il y avait la même opposition qu'à Jérusalem au temps du Christ. Ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Paul sentait bien que la colère venait. Et quelle est cette colère qui est venue à ce moment-là sur Jérusalem? Quand Titus a accompli la prophétie de Jésus et qu'il a pris Jérusalem, Jérusalem a été détruite. La colère venait. Personne ne croyait à cela. Ce n'était pas possible que Jérusalem soit détruite. Pourquoi? Parce qu'il y avait le temple de Dieu, le temple de Salomon qui est là. Moi, je n'irais pas me réfugier dans un temple. En tout cas pas. Parce qu'il y a trop d'iniquité et le monde est trop entré dans le temple. Alors, restez là où vous êtes, sous la protection du Seigneur. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulons-nous aller vers vous, du moins moi Paul, voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une fois ou deux fois. Mais Satan nous a empêchés. Alors vous verrez la question qui est posée là. Quelle est en effet notre espérance, notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant le Seigneur Jésus, lors de son avènement, quand ils pensent qu'ils ont tenu, fidèlement, ils se réjouissent de l'avènement du Seigneur, où le Seigneur manifestera toutes choses. Oui, Vous êtes notre gloire et notre joie. Puis vous continuez. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Alors, puisqu'on le sait, est-ce qu'on va s'étonner? Quand les afflictions sont là, on dit, eh bien, Seigneur, tu le permets, et je me demande comment tu vas m'en sortir. Mais on a tout de suite cette foi que le Seigneur ne va pas nous laisser. Au lieu de nous lamenter, ou de nous révolter, dire, pourquoi est-ce que tu permets cela? C'est pas pourquoi est-ce que tu permets cela. Si tu le permets, c'est que tu as en vue mon bien suprême. C'est comme cela que nous devons raisonner. Et lorsque nous étions, verset 4, auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé, comme vous le savez. Aussi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur, c'est donc Satan, ne vous ait tenté et que nous ayons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons nous aussi vous voir. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Vous voyez, il n'était pas préoccupé pour lui, il était préoccupé pour les autres. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi, parce qu'on a toujours besoin d'apprendre. Que Dieu lui-même, notre Père, et que notre Seigneur Jésus, voilà sa prière, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous. Et je dis aussi, puisque je dois donner la réponse aux sœurs, que Dieu lui-même me montre, et je voudrais que vous soyez aussi en prière pour cela, si je dois prendre des réserves pour l'année prochaine, parce qu'il faut retenir une année à l'avance. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Il revient pour les siens et il revient avec les siens. Alors, vous allez maintenant dans vos chambres. Vous n'aurez pas besoin tellement de relire, mais vous reprenez ces textes. On vient de les relire ensemble. Je suis sûr que vous les avez réentendus. Et c'est cela qui me console. Et vous trouverez peut-être quatre autres questions. Bien, vous laissez les questions de côté. Et puis, vous prenez celles et qui vous concerne le plus. Par exemple, la huitième, l'avènement du Seigneur est-il pour vous un sujet de joie ou un motif de sanctification? Commencez par la dernière, si vous voulez.